Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que nous allons consacrer aux chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne sous le titre « Rancon, nœud ferroviaire du tram ». Pour les textes, nous avons utilisé les ouvrages suivants. La joie de l'été, un recueil de poèmes de Paul Lavergne, un extrait de l'ouvrage Basse marche de tous les temps, un article de Fernand Adeline dans Limousin Magazine, le tram électoral du sénateur Vacherie, plusieurs extraits de la vallée de Georges Sand aux collines de Jean Giraudoux de Louis Peignot, un extrait de Paysan rouge du Limousin de Pierre Vallin, et surtout, les chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne de Jean-Claude Riffon.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Paul Lavergne, la poétesse de Mézières-sur-Issoire, a rédigé le poème qui suit après avoir pris le tramway. Je venais seul dans la voiture d'arrière. Je voyais fuir les rails luisants dans le beau soir. Je sentais toutes les inégalités de la route. Les côtes, quand le tram souffle et tire. Les descentes où il se précipite, joyeux dans un fracas. Et puis, aussi, où il file sans effort de son train égal et doux. Je voyais les prairies qu'on fauche, les bœufs qui paissent sans lever le mufle. Je pensais à un coin d'ombre fraîche où le vent cliquetait dans les feuilles. Je pensais aux âmes qui ne peuvent se pénétrer à cause d'une différence de race et de langage. Je m'en allais en mélancolie, me laissant emporter par la voiture qui balance. Heureuse malgré tout, sur ce chemin de France, sur ma terre limousine âpre et rebelle, heureuse dans mon pays que je comprends et dont je sens en moi les voix qui parlent. L'aventure du tramway en Haute-Vienne et particulièrement en basse marche fut une aventure extraordinaire. Songeons que pendant la première partie du XXe siècle, de Rancon, on pouvait se rendre à Limoges par Baldan, Roussac, Saint-Symphorien-sur-Couze, Saint-Pardoux, Compreignac, etc. Il fallait à peu près 2 heures pour relier Rancon à Limoges. On pouvait se rendre à Saint-Sulpice-les-Feuilles par Villevite, Château-Ponsac, Saint-Sornin-le-Lac, Vaupoutour, Saint-Hilaire-la-Treille, Arnac-la-Poste, La Salesse. Et pour cela, il fallut construire en 1912 le grand viaduc qui enjambe la Gartempe et dont nous reparlerons. On pouvait se rendre aussi à Bussière-Poitevine par Blanzac, Bellac, Le Repère, Saint-Bonnet-de-Bellac, Pétavaux. Puis, à partir de Bussière-Poitevine, revenir à Limoges, par Saint-Barban, Saint-Martial-sur-Isope, La Motte de Saint-Martial, Mézières-sur-Issoire, Nouic, Mortemart, Blon, La Vérine, Thieux, etc. Et par cette ligne, on pouvait encore se rendre à Saint-Junien. On le voit, avec le tramway, la basse marche possédait un véritable maillage de voies de communication qui complétait celui des chemins de fer, avec les lignes de Limoges-Poitiers, en basse marche par Blon, Chapterie, Bellac, Peyrade-Bellac, Saint-Ouen-sur-Gartempe, Le Dorat, mais encore Saint-Sulpice-Laurière, Le Dorat par Château-Ponsac, et encore Le Dorat, Magnac-Laval. Pratiquement toutes les communes, tous les villages de la basse marche, voire les hameaux, étaient tous à proximité d'une gare, d'une station, d'une halte du tram, ou d'une gare ou d'une station du chemin de fer. Alors certes, on dépassait rarement les 30 km à l'heure, mais le réseau des transports en commun était alors une réalité. Sachons par exemple que dans les années 1940, le tram transportait 3 millions de voyageurs par an sur le réseau de la Haute-Vienne, pratiquement 10 000 par jour, mais aussi 165 000 tonnes de marchandises par an. En effet, le tram permettait le transport des voyageurs, mais aussi de toutes les marchandises possibles et imaginables. C'est grâce au chemin de fer et au tram que les cultivateurs bas-marchois se mirent à utiliser la chaux et les engrais, se mirent à transporter du bétail, à transporter les pommes de terre, etc. Ce qui donna à l'activité économique de la Basse-Marche un regain d'activité pendant l'entre-deux-guerres. Ajoutons qu'il fallait également produire, transporter le courant électrique et parfois vendre l'excédent d'énergie électrique. Il fallait encore fabriquer les poteaux et exploiter les ballastières.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Dans ce texte, extrait de Limousin Magazine, Fernand Adeline nous confirme l'importance du tram en Basse-Marche. En 1905, nous dit-il, la Basse-Marche n'était qu'un désert au niveau des voies de communication. Bien sûr, le premier train était entré en gare de Limoges en 1859, mais dans les cités du nord de la Haute-Vienne, on n'en était pas encore là. Aller à la foire constituait une équipée qui faisait date dans l'année. C'était un no man's land vert, bordé par les lignes Paris-Toulouse et Poitiers-Limoges. Pour prendre le train à Roussac, avant l'année 1912, il fallait se rendre à Vaulry, à Nantia ou à Bellac. C'était une véritable équipée. À cette époque, les écoliers en Limousin devaient faire des kilomètres à pied pour poursuivre leurs études. Habitant Saint-Symphorien au début du siècle, écrit Louis Peignot, et étant pensionnaire à Bellac, il fallait que j'effectue 12 kilomètres à travers des petits chemins afin de prendre le train à Nantia. Depuis des années, on l'attendait, ce train des CDHV, des chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne, qui faisait figure de messie avec ses étincelles.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Avant les élections en Basse-Marche, on voyait des ingénieurs qui mettaient ici et là des piquets. On se l'arrachait, ce chemin de fer. Il donnait lieu à des discussions formidables entre les municipalités, mais à Roussac, chacun savait bien qu'il passerait dans la commune. Rancon n'est pas loin, et à l'époque, le maire de la cité n'était autre que le sénateur Vacherie, un grand personnage en Limousin à qui l'on doit cette ligne de chemin de fer régional. Qui est ce fameux sénateur Vacherie qui est à l'origine de ce tram? C'est le 24 juin 1912 que pour la première fois, le tram électoral Limoges-Rancon s'ébranlait dans un grincement de ferraille et offrait des gerbes d'étincelles à partir de la place Carnot à Limoges. Et aussi bien Louis Peignot que Fernand Adeline nous expliquent qu'était arrivée l'heure de gloire pour le sénateur Vacherie qui était 2 ans auparavant président du conseil général de la Haute-Vienne. Tous ses amis étaient autour de lui et nombre d'habitants de Rancon avaient même fait le voyage jusque dans la capitale régionale pour savourer la victoire. On raconte toujours que Monsieur Paillet, le sabotier de Rancon, détenait le premier billet de la vaillante ligne aux 1000 anecdotes. Lors de l'éloge funèbre du sénateur-maire de Rancon, Monsieur Bastier, le directeur d'école, déclara « J'ai assisté à ces travaux pour la création de ce réseau. Je sais les veillées, les nuits passées pour mener à bien la tâche qu'il avait entreprise. J'ai connu tous les voyages, toutes les démarches. C'est grâce à Monsieur Vacherie que nous avons des débouchés sur Limoges, sur Bellac, sur Château-Ponsac. » Le sénateur Vacherie était né à Rancon en juin 1847, où il mourut en 1917. Député de la Haute-Vienne, puis sénateur, médecin, président du conseil général de la Haute-Vienne, maire de Rancon. Il était membre du groupe de la gauche démocratique, mais il sera un parlementaire assez discret, s'intéressant surtout à sa région et aux innovations techniques et technologiques comme le tram et le téléphone.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Dans Paysans rouges du Limousin, Pierre Vallin nous explique l'importance du tram et du sénateur Vacherie pour sa commune, la commune de Comprignac. Enfin, dit-il, le dernier grand changement dans l'ordre économique traditionnel est apporté par les transports. Si Limoges est reliée à Paris dès le Second Empire et Bellac à Limoges en 1883, ce n'est qu'avec la création du chemin de fer départemental quelques années avant la guerre que les campagnes sortent de leur isolement. Et l'arrondissement de Bellac est particulièrement bien innervé par le tramway à voie étroite. Alors bien sûr, la politique intervint dans l'élaboration des tracés, négociations avec les intéressés, piquetages préélectoraux, retards divers. Ayant beaucoup travaillé à la réalisation de ce projet, Henri Vacherie y voit une véritable révolution. La commune de Comprignac est desservie par deux stations, l'une au bourg, l'autre à la Crouzille. Même si, les premiers temps, le tramway se montre capricieux, c'est bien une ère nouvelle qu'il ouvre aux paysans qui, jusque-là, ne se déplaçaient qu'à pied. Cette fois, la liaison avec le marché national s'opère vraiment, puisque Limoges et Paris sont accessibles par les transports en commun, voyageurs comme marchandises. Les débuts du tramway furent pourtant capricieux. Au début, raconte Louis Peignot, les gares étaient marquées par des piquets. Tout le monde montait sans payer, le receveur était débordé et on s'écrasait jusque sur les marchepieds. Ça secouait, ça ballottait, on avait toujours l'impression que la machine allait tomber dans le fossé. D'ailleurs, personne ne savait à quelle heure il allait arriver. Avant 1919, les poteaux qui supportaient les lignes étaient en bois de pin et ils devaient fatalement pourrir et tomber sur la voie. Monsieur Peignot ajoute, alors, les voyageurs mangeaient dans le tram à la lueur des bougies. Une fois, ma femme a dû coucher à Château-Ponsac. En prévision d'arrêt nocturne ou diurne, chacun emmenait avec lui des provisions et on étalait le ravitaillement sur les genoux.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Concernant l'histoire des chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne, nous empruntons les informations à la remarquable étude de Jean-Claude Riffaut, les chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne. La première évocation, nous dit-il, au Conseil général de la Haute-Vienne sur l'établissement de lignes départementales eut lieu au cours de la session de septembre 1881, peu après la promulgation de la loi sur les tramways. Mais c'est en 1903 que le sénateur Vacherie présenta le projet étudié par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, M. Bonafou. Cette étude faisait pour la première fois place à la traction électrique. Et c'est lors de la séance du 24 août 1905 que le Conseil général décida de la construction d'un réseau de tramways électriques comportant les lignes suivantes. Pour ce qui nous concerne, Limoges à Saint-Sulpice-les-Feuilles et embranchement de Rancon à Buchères-Poitevine, et Limoges à Oradour-sur-Glane et à Buchères-Poitevine, et embranchement pour Saint-Junien. La déclaration d'utilité publique fut prise en juillet 1906. Et dans le même mois, le ministère des Travaux publics autorisa la mise en concession pour un réseau départemental de 260 km. En plus des lignes concernant la basse marche et de Saint-Junien que nous avons déjà citées, il y avait une ligne Limoges-Châteauneuf et Moutier et une ligne Limoges-Saint-Mathieu. Une société anonyme fut créée par les concessionnaires en vue de l'exploitation du réseau. Constituée le 29 novembre 1909 pour 65 ans, elle prit la dénomination de Compagnie des chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne, en abrégé CDHV. Le capital de la compagnie, dont le siège était à Paris, 12 rue d'Aguesseau, s'élevait à 3 750 000 francs, formé de 7 500 actions de 500 francs. Les travaux avaient commencé dès 1907. Ils furent très activement menés par l'entreprise générale Giros et durèrent un peu plus de 2 ans. Les chantiers furent menés de front sur toutes les lignes au moyen de 5 locomotives à vapeur et d'une quarantaine de plateformes. La mise en exploitation de la majorité des lignes va se faire à partir de 1912. Par exemple, en juin 1912, La Thuillère à Buchères-Poitevine, Rancon à Couzex, Rancon à Buchères-Poitevine, Rancon à Château-Ponsac. Mars 1913, Château-Ponsac-Saint-Sulpice-les-Feuilles. Par contre, les projets de voies de Saint-Sulpice-les-Feuilles à Saint-Benoît-du-Sault ou de Razé à Bessines ne se réaliseront jamais. Et il est à noter que de nombreux problèmes de traction se firent jour, en particulier en raison de la modeste qualité des isolants et des avaries des moteurs de traction. Et cela, au moins jusqu'en 1914, année où les moteurs furent tous remplacés, ainsi que plusieurs autotransformateurs. On se doute que la Première Guerre mondiale ne va pas arranger les affaires de notre tram. La moitié du personnel des CDHV dut rejoindre le front. L'usine électrique de secours de Laurence ne fut plus approvisionnée en charbon. Les poteaux-bois commencèrent à se détruire. La voie ne fut plus entretenue. Le trafic voyageurs et marchandises chuta. Et au sortir de la guerre, il fallut procéder à de très importants travaux de rénovation des lignes.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Les chemins de fer départementaux après la Première Guerre mondiale. Alors nous poursuivons grâce aux informations de Jean-Claude Riffaut. Après la Première Guerre mondiale et surtout à partir de 1923, des voies furent rénovées. Les poteaux bois furent remplacés par des poteaux béton. Les motrices furent remplacées par des motrices à bogies. L'usine électrique des Moutiers fut renforcée par une troisième turbine et son interconnexion avec la centrale de Limoges réalisée. Cela permit l'augmentation de la vitesse et la séparation du service voyageur de celui des marchandises. Le trafic s'intensifia grandement, surtout à partir de 1925. Mais dès les années 1930, on constata une évasion des voyageurs vers les services de transport routier, à tel point que la compagnie des chemins de fer départementaux elle-même mit en place, à titre d'essai, un service d'autobus sur les lignes Rancon-Buchères-Poitevine ou La Thuillière-Buchères-Poitevine. Les résultats furent concluants. Aussi, le Conseil général, dans sa session de l'automne 1936, décida l'arrêt définitif de la ligne Rancon-Buchères-Poitevine. La Seconde Guerre mondiale, comme celle de 1914-1918, va enlever une grande partie du personnel des chemins de fer départementaux, ce qui aboutit à diminuer l'entretien des véhicules et de la voie. Puis, avec l'arrêt de l'approvisionnement en charbon, seul le barrage des Moutiers fournit le courant électrique pour l'ensemble du réseau départemental. L'activité se réduit. Le réseau n'est plus entretenu, un grand nombre de machines est mis à l'arrêt. Avec la guerre, l'occupation, la résistance, une partie du réseau et de l'usine des Moutiers fut gravement endommagée. Après la guerre, à partir d'octobre 1945, un plan de modernisation du tram fut proposé au département, mais le Conseil général hésita et seules des transformations de détail se firent jour. Et le tram se mit un peu à végéter, ce qui conduisit à la suppression progressive du réseau ferré à compter du 1er janvier 1949. Alors certes, en attendant la livraison des autobus et des camions nécessaires au fonctionnement, le service par fer continua jusqu'en février 1949 pour les voyageurs et en juin 1949 pour les marchandises. Et dans bien des cas, la dépose des lignes se fit dès l'année 1952. Le tram est l'activité économique. Alors certes, le tram va assurer le développement du commerce, de l'agriculture, nous l'avons vu, mais bien plus, la construction et l'entretien du tram lui-même vont être très fortement créateurs d'emplois. Il y a ceux qui travaillent à la compagnie des chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne. Pour chaque rame, il y a au minimum un conducteur, un chef de train, un ou deux receveurs. Mais il faut aussi des ouvriers, des employés pour poser, entretenir les voies, planter les poteaux, d'abord en bois puis en béton armé, assurer le chargement, le déchargement des marchandises, remiser, entretenir, construire les ouvrages d'art comme le viaduc de Rancon, construire les stations, les gares, les haltes. Prenons l'exemple de la ligne Limoges à Saint-Sulpice-les-Feuilles, qui fut ouverte en mars 1913 pour une longueur de près de 79 km. On partait par exemple de Limoges à 8h10, mais il y avait entre 4 et 5 départs par jour de 4h du matin à 18h. On arrivait à Rancon à 10h38 pour repartir à 10h45 pour une arrivée à Saint-Sulpice-les-Feuilles à 12h35. On a mis près de 4h à 20 km/h pour relier Limoges à Saint-Sulpice-les-Feuilles. Après la gare de Saint-Pardoux, c'est celle de Saint-Symphorien-sur-Couze, puis celle de Roussac, ensuite c'est la station de Baldan, puis c'est la grande gare de Rancon, l'arrêt est de 7 minutes, la gare de Rancon qui permet de communiquer avec Limoges, Saint-Sulpice-les-Feuilles, Bellac, Bussière-Poitevine. Puis c'est la station de Villevie et la gare de Château-Bonsac où il y a 5 minutes d'arrêt. La gare de Château-Bonsac possède une remise à automotrice. Puis c'est la gare de Saint-Sornin-le-Lac, la station de Vaupoutour, la gare de Saint-Hilaire-la-Treille, celle d'Arnac-la-Poste, la halte de La Salesse et enfin la gare terminale de Saint-Sulpice-les-Feuilles.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Alors quittons Saint-Sulpice-les-Feuilles pour revenir au carrefour de Rancon pour nous rendre à Bussière-Poitevine. Cette ligne fut ouverte à l'exploitation en juillet 1912 pour un peu plus de 29 km. On pouvait partir de Rancon par exemple à 15h20, il y avait 3 départs par jour, et on arrive à Bussière-Poitevine à 16h55, 1h30 pour relier les 29 km. De Bussière-Poitevine, on rejoint Limoges par Saint-Martial-Saint-Barban, qui est une des rares gares à posséder une rampe d'embarquement, Mézières-sur-Issoire, Blonds, Cieux, etc. Imaginons toutes ces gares, toutes ces stations à construire, imaginons les activités annexes à ces gares et stations, les cafés des voyageurs, les entrepôts de marchandises, les charrettes pour transporter les voyageurs et les marchandises vers les villages, les hameaux, les fermes isolées. Imaginons aussi les grands travaux, les ouvrages d'art, comme cet imposant viaduc de Rancon sur la gare Tempe, 138 mètres de long, 27 mètres de haut, 11 arches de 9 mètres d'ouverture. Imaginons encore les productions des balastières, comme celle de Blon, la fabrication des poteaux en béton armé, que l'on trouve encore aujourd'hui sur la route de Nouic. Imaginons enfin la production d'électricité pour alimenter les rames et l'installation des autotransformateurs électriques.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
On l'a vu, la traction automobile, les bus, les camions fonctionnant à l'essence, au gasoil, ont peu à peu tué le tram rural qui n'aura vécu que 37 ans. Ce n'est peut-être pas définitif. Le coût des énergies fossiles, les pollutions qu'elles entraînent, pourraient peut-être remettre à la mode ce mode de transport. Et voici quelques mois, de jeunes Limousins ont présenté le projet de renaissance du tram rural qui, combiné au réseau TER, permettrait de réaliser un maillage des petites cités et villages du nord de la Haute-Vienne en économisant nos sources d'énergie et en permettant un meilleur équilibre écologique. Pour ma part, je pense que l'affaire mérite qu'on s'y intéresse de plus près. Le temps nous a manqué pour parler des machines, pour parler des techniques, de l'électrification, de ce que sont devenues les gares, les stations. Pour cela, nous vous conseillons de consulter les ouvrages que nous avons cités en début d'émission et en particulier les chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne de Jean-Claude Riffaut. C'est le numéro 41 du bulletin des Amis du rail secondaire et touristique. Merci de nous avoir suivis pour cette chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que nous avons consacrée aux chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne sous le titre « Rancon, nœud ferroviaire du tram ». Nous l'avons fait en compagnie de Paul Lavergne, de Fernand Adeline, de Louis Peignot, de Pierre Vallin et de Jean-Claude Riffaut. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel à Vladimir Cosma, Nino Rota et Michel Villard, que nous écoutons en ce moment. Je vous invite à me rejoindre le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. Très bonne semaine à vous tous et à très bientôt.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.